Le nombre de ses années, nul ne le sonde, car il attire les gouttes d'eau, des vapeurs qu'il forme, elle distille la pluie, que les nuages font couler, il tombe en gouttes sur les hommes abondamment. Mais qui peut comprendre le déploiement de la nuée et le fracas de son tabernacle? Voici, il étend sa lumière autour de lui et couvre le fond de la mer. Par ces choses, il juge les peuples, d'une part, et d'autre part, il donne la nourriture en son temps. Et puisque nous avons le verset 32 sous les yeux, il couvre ses mains de l'éclair et lui commande où il doit frapper. Une petite parenthèse, quand nous étions enfants, nous avions peur, comme tous les enfants, de la foudre et de l'éclair. C'est impressionnant. Et nos parents nous rassuraient par ce verset 32. Il couvre ses mains de l'éclair et lui commande où il doit frapper. C'est un sujet sensible, certes, parce que certains parmi nous ont été touchés, mais ce verset subsiste et c'est Dieu qui est derrière. Et il éprouve toujours pour nous bénir. Alors, nous avons la même chose à la page suivante, soit en bonté, soit en jugement, la pluie. Au verset 11 du chapitre 37, Job 37, verset 11, « Il charge d'eau le nuage, sa lumière dissipe les nuées, et sous sa conduite, elles tournent en tous sens pour accomplir leur œuvre, tout ce qu'il leur commande sur la face du cercle de la terre, soit qu'il les fasse venir comme verges, ou pour sa terre, en bonté. » Et là, c'était en jugement et comme verge dans ce terrible déluge de la Genèse. Dieu avait fait l'homme sur la terre et puis au bout de quelques centaines d'années, il s'était complètement corrompu. C'est extraordinaire. On ne croit pas presque le texte quand il dit que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Quelle peine dans son cœur de voir l'homme dépravé. Il est dit que toute chair avait corrompu sa voie. Quelle peine pour Dieu aussi quand il voit les hommes révoltés contre lui et corrompus dans leurs mœurs. Quelle peine. Et Dieu supporte pendant longtemps et pendant 120 ans de la construction de l'arche. Enfin, du moins, il y a ces 120 ans de patience de Dieu. Quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, dit l'apôtre Pierre. Et Dieu ne juge jamais sans avoir épuisé les ressources de sa miséricorde. Et c'est un frère, un prédicateur puissant, Adolphe Monod, qui a dit « Le jugement, c'est la miséricorde de Dieu épuisée. » Ça, il faut que nous le retenions. Parce que sinon, les hommes disent « Mais enfin, vous avez un Dieu cruel qui a anéanti par le déluge, qui a anéanti les sept nations de Canaan, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu ?» Eh bien, nous pouvons toujours dire « Dieu juge après avoir épuisé les ressources de sa miséricorde. » Et ça sera vrai dans l'avenir, quand Dieu, selon l'Apocalypse, jugera les hommes. Il aura épuisé les ressources de sa miséricorde. Dieu ne juge jamais avant. Dieu, c'est son travail inaccoutumé, son œuvre étrange, nous dit le prophète Ésaïe. Et Dieu est bouleversé quand il doit juger. Si vous voulez, par exemple, des versets qui nous disent que Dieu est bouleversé quand il juge, eh bien, vous ouvrez le prophète Osée, par exemple, et je vous lis un verset dans le prophète Osée. Et Dieu est bouleversé de juger les hommes par le déluge. C'est à propos de la transportation à Babylone. On lit dans Osée 11, verset 8. « Mais que ferai-je de toi, Éphraïm? Comment te livrerai-je, Israël? Comment ferai-je de toi comme Adma et te rendrai-je comme Séboïm? Mon cœur est changé en moi. Toutes ensemble, mes compassions se sont émues. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas de nouveau Éphraïm. » Et en Jérémie 31 aussi, les sentiments de Dieu quand il juge, c'est très important de connaître ces versets. Jérémie 31, verset 20, « Éphraïm m'est-il un fils précieux, un enfant de prédilection? Car depuis que j'ai parlé contre lui, je me souviens de lui encore constamment. C'est pourquoi mes entrailles se sont émues pour lui. Certainement, j'aurai compassion de lui, dit l'Éternel. » L'Éternel, Dieu, c'est, quand il juge, c'est un peu un père. Quand un père châtie, mais il a plus mal que son enfant. Eh bien, Dieu a châtié le monde par le déluge et il a préservé ces 8 personnes dans cette arche. Mais quelle épreuve pour ces 8 personnes! Vous vous rendez compte, pendant 40 jours et 40 nuits, les fontaines du grand abîme se sont ouvertes, les écluses des cieux d'en haut, les fontaines du grand abîme par le bas, tout était contre ces personnes, c'était une épreuve terrible. Et pendant 40 jours, et puis les eaux se sont renforcées pendant 150 jours. pratiquement une demi-année d'épreuves terribles. Et enfin, l'arche s'est posée sur les montagnes d'Ararat. Enfin, l'épreuve était terminée. Mais je pense que dans l'humanité de ces trois personnes, on peut dire que ça a été dur. Ça a été stressant, pour employer un terme moderne. Quand on traverse de grandes épreuves, même le corps est touché. On peut avoir les nerfs à bout. Et je pense que Noé et ses huit personnes étaient à bout de fatigue. C'était terrible. Eh bien, j'admire Dieu qui les rassure. Et quand on sort d'une épreuve, quand on sort d'un choc psychologique, d'un deuil, d'un accident de voiture, quelque chose qui nous a éprouvé fortement, on a été secoué, eh bien, on a besoin que Dieu nous rassure. Je veux parler plus que du Dieu qui a donné l'arc-en-ciel que de l'arc-en-ciel lui-même. L'arc-en-ciel, oui, c'est une merveille de la création. C'est la décomposition de la lumière blanche en sept couleurs. C'est magnifique. Mais c'est plutôt le Dieu qui a donné l'arc-en-ciel. C'est ce Dieu-là qui est le nôtre. Voilà, il a dû juger, mais maintenant il rassure ceux qui sont passés au travers de l'épreuve, qu'il a sauvés. Parce que ces huit personnes représentent des personnes que Dieu a sauvées. C'est une des premières images de l'Écriture du salut que nous avons en Jésus-Christ, cette arche battue par les flots de tous les côtés, mais qui protège Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été battu par tous les flots du jugement de Dieu, mais nous sommes protégés en Christ. C'est une belle expression qui est dans les Épîtres et qui trouve une image merveilleuse avec l'arche. Et voilà que Dieu rassure Noé, ses fils, et fait une alliance avec eux. Ce n'est pas seulement l'arc-en-ciel, mais il fait une alliance. Et il me semble que c'est la première alliance de l'Écriture. Et derrière le mot « alliance », il faut toujours voir le mot « amour ». Selon Jérémie 31, d'une autre alliance faite au Sinaï, « Mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les eusse épousée, dit l'Éternel. » L'image du mariage est prise. Le mariage, c'est une alliance. Et ce n'est pas une alliance commerciale, c'est une alliance d'amour. Et Dieu fait une alliance d'amour avec Noé et ses fils, plus tard avec un peuple au Sinaï, Exode 19, et puis la nouvelle alliance avec nous, avec l'Israël futur. Dieu s'engage. Ces huit personnes sauvées sont son joyau précieux. Il s'engage avec eux, il fait une alliance et de ne plus détruire la terre, de ne plus maudire la terre par le déluge. Nous savons par l'épître de Pierre que la terre sera détruite par le feu, mais pas par l'eau. Dieu s'est engagé et il met son arc dans la nuée. Et j'ai beaucoup de plaisir à terminer cette rencontre ici, chez Marc, avec ce sujet de l'arc-en-ciel qui est le symbole pour nous de la fidélité de Dieu. Je verrai l'arc-en-ciel, dit Dieu. Ce n'est pas seulement Noé qui voyait l'arc-en-ciel et dit, quand les nuages arrivaient, non, non, il n'y aura pas de nouveau un déluge. Dieu l'a promis. Mais c'est touchant de voir que c'est Dieu qui voit l'arc-en-ciel. Je verrai et je me souviendrai. Nous avons un Dieu fidèle. Et nous voulons partir d'ici, de cette dernière rencontre, en gardant nos cœurs, que nous avons un Dieu fidèle, qui se souvient de nous. On est dans l'humanité, on est fragile, on a reçu des chocs, peut-être psychologiques, des épreuves, mais on a un Dieu fidèle. Et c'est touchant de penser que Dieu l'a inscrit dans sa création. Encore aujourd'hui, on peut voir l'arc-en-ciel. Alors nous terminons par cette note. Nous avons un Dieu fidèle.